Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Dans le camp de réfugiés de Shatila à Beyrouth, Khalil, un vieux fédaïne héros de la résistance palestinienne, est plongé dans le coma. Pour le ramener à la vie, Younes, son médecin, lui raconte des histoires. Des épisodes de son existence, des récits de la guerre civile libanaise et la vie d'hommes et de femmes chassés de Galilée en 1948. La Porte du Soleil, le roman d'Elias Koury, fonctionne comme un enchevêtrement de récits. Un livre qui n'aurait ni début ni fin, comme le dit l'un des personnages du roman, une épopée, l'épopée du peuple palestinien. En 2002, peu après la parution du livre en France, Pascal Casanova consacrait son émission Les Jeudis littéraires à ce roman. On y entendait un entretien avec Elias Koury, dans lequel l'écrivain en racontait la genèse et le travail documentaire qu'il lui avait demandé, à lui qui n'avait jamais mis les pieds en Galilée. À sa suite, Edmond Amran El-Malet, écrivain disparu en 2010, y évoquait son roman « Mille ans, un jour », reparu cette année-là aux éditions André Dimanche, un récit construit autour d'un autre exil, celui des Juifs marocains. Les Jeudis littéraires, Elias Koury et Edmond Amran El-Malet, le roman « La politique et l'histoire », première diffusion sur France Culture le 4 avril 2002.
Aujourd'hui, le roman « La politique et l'histoire » Elias Koury, Edmond Amran El-Malet. Avec Elias Koury, écrivain libanais qui vient de publier en traduction française La Porte du Soleil aux éditions Actes Sud. Il était à Paris il y a quelques jours et c'est Arnaud Dehaye qui est là aussi aujourd'hui et qui l'a rencontré pour nous. On est aussi avec Edmond Amran El-Malet, romancier marocain. Les éditions André Dimanche reprennent un de ses récits, Milan, un jour. On est enfin avec Dominique Edé qui est elle aussi écrivain libanaise et qui connaît bien l'œuvre des deux romanciers dont nous parlons aujourd'hui, Elias Koury et Edmond El-Malet. Commencer par Elias Koury. Peut-être avant d'écouter l'entretien qu'il nous a donné, ce serait bien, Dominique Edé, simplement de dire un petit peu quel est son parcours et ce qu'il représente aujourd'hui, à la fois dans la littérature et puis dans le monde intellectuel arabe, disons.
Oui, écoutez, Elias Koury est une figure à la fois majeur et rare, je dirais, tant au Liban que dans le monde arabe. C'est un homme qui a eu une cohérence et une force assortie d'une grande solitude dans ses combats qu'il n'a jamais démenti, mais en mûrissant constamment, c'est-à-dire en cultivant une liberté de plus en plus grande par rapport à des engagements militants qui sont les siens.
Mmh. Et donc, il est né en 48, c'est ça ou...
Je ne sais pas sa date de naissance exacte, mais ça me paraît effectivement vraisemblable. C'est un homme qui a maintenant une œuvre derrière lui. Il a publié 5 ou 6 romans, dont celui-ci, qui est une œuvre majeure, qui est une épopée, mais pas du tout sur le mode narratif chronologie classique. Au contraire, c'est une démarche qui est aussi près que possible de la réalité, c'est-à-dire éclatée. Et Elias Koury, qui est aussi actuellement le directeur du supplément littéraire Nahar à Beyrouth, est un homme qui a beaucoup enrichi la vie culturelle libanaise. Son théâtre, auquel il a participé, soit directement en écrivant des scénarios, soit en faisant venir des auteurs de l'étranger. il parle d'ailleurs dans ce livre de ce que fut l'expérience de 5 heures à Sabra et Shatila du texte de Jean Genet.
Oui, c'est vrai qu'il l'évoque. Oui.
Il l'évoque dans ce livre avec d'ailleurs une manière toujours, non pas détournée, mais toujours libre d'aborder des événements qui ont fait l'objet de tellement de récits, je dirais conventionnels, que ce livre apporte maintenant une formidable liberté d'écriture. Au fond, Elias Koury est un homme de parole, au sens plein du terme. Il a tenu parole et il a introduit dans l'écriture la parole, non pas comme on transporte une citation dans un texte écrit, c'est-à-dire qu'il a fait sauter les guillemets et il a fait en sorte que la parole, qui est à mon avis le patrimoine fondamental de la culture arabe, extraordinairement difficile à valoriser puisqu'elle s'en va sans laisser de traces, eh bien il s'est attaqué à cette immense montagne invisible qu'est la parole pour en faire l'écriture. Et là, il innove à tout point de vue, c'est-à-dire qu'il innove dans la langue, il innove dans la mémoire et il innove même politiquement.
Alors, on va l'écouter, Arnaud Dehaene, parce que vous l'avez, il est venu il y a quelques jours.
Oui, il y a 15 jours à peu près. Moi, je l'ai rencontré, j'avais été frappé par la densité de son roman, en fait, La Porte du Soleil, par la densité du récit, qui est une sorte de long récit en apnée, plusieurs récits croisés. Et justement, j'ai voulu l'interroger sur la nature même de cette prose.
C'est un long monologue, mais dans le monologue, les histoires viennent et la parole est donnée à des centaines de gens. Donc la voix est donnée à peu près 300 personnages dans ce roman, exactement parce que la structure intérieure de ce roman, ce n'est pas le monologue, c'est la couverture, ça veut dire c'est le line, mais la structure intérieure, c'est les histoires dans les histoires. C'est comme dans les mille et une nuits, c'est comme dans les contes populaires. Ça veut dire une histoire ouvre la porte à une autre histoire qui ouvre la porte à plusieurs histoires jusqu'à l'infini. Et c'est pour cela que ce livre était très douloureux pour moi, parce que ce livre peut être continué à l'infini. Et il fallait à un moment de l'arrêter, le livre, parce que... Et ça veut dire le corps humain, le corps de l'écrivain ne peut plus supporter de continuer à écrire. Et pratiquement, je pense qu'il y a un texte qui se fait dans l'écriture elle-même, un texte qui est le résultat d'un travail énorme sur le terrain, parce qu'il fallait travailler dans les camps de réfugiés pendant 3 ans pour ramasser les histoires, pour les mettre ensemble, pour faire un montage énorme et pour arriver à créer un style propre. Ça veut dire un style qui met ensemble le parler, la langue dialectale, dans le syntaxe de l'écrit arabe, en créant une immense histoire, mais qui n'est pas une légende. Ça veut dire l'idée elle-même, c'est de détruire l'aspect légendaire de la situation palestinienne. La Palestine est un pays comme tous les pays du monde, c'est une colonisation comme toutes les colonisations. Et il n'y a pas un truc spécial ou spécifique dans la drame palestinienne. L'important, c'est l'expérience des individus. L'important, c'est l'émergence de l'individu au sein des camps des réfugiés, au sein d'une vie très difficile.
Il y a un passage, en fait, où le narrateur dit ne pas être capable de description. On a l'impression que c'est aussi un petit peu votre cas comme auteur. C'est-à-dire que vous n'aimez pas les descriptions. Au contraire, tous les récits sont très évocateurs, mais peu descriptifs.
Je pense que ici, ça a un lien avec l'histoire de la littérature arabe et surtout la poésie arabe pré-islamique. La poésie arabe pré-islamique était définie comme une poésie de description. Et par ailleurs, le narrateur cite Amr al-Qais, cite comment il a décrit. Et ce qu'il essaie à faire, ce n'est pas de décrire les détails des choses, mais d'entrer dans le fond de l'esprit humain et d'essayer de créer une atmosphère où les gens peuvent exprimer leur expérience. Et deuxièmement, c'est un récit basé sur la mémoire, et on sait que la mémoire n'est pas exacte. La mémoire est toujours mélangée avec l'imaginaire. Le réel et l'imaginaire sont toujours les deux bords de mémoire. Et c'est pour cela que les histoires sont racontées plusieurs fois, avec plusieurs versions. Et l'idée de ce témoignage, si on veut dire, de ce monologue, c'est que la Palestine n'a pas une seule histoire. Il ne faut pas être figé dans une seule histoire, parce que une seule histoire, ça veut dire la mort. La Palestine est très a des diverses versions. Et ce que le livre a essayé de faire, c'est de joindre la plus possible version pour créer cette grande histoire d'amour. D'abord, d'ailleurs, l'idée de ce livre, c'était d'écrire un livre d'amour. Ce n'était pas d'écrire le livre de l'exode palestinien. Vraiment, je dis la vérité. Et l'idée, c'était d'écrire l'histoire d'amour de Younis et Nahila, comment ils traversent les frontières, etc. Mais je me suis rendu compte que pour écrire ça, il fallait reconstruire toute une histoire qui n'a jamais été écrite. Et c'était pour moi un grand voyage vers les Palestiniens. Je ne suis pas palestinien. Et un grand voyage vers la Palestine que je connais. Ça veut dire que j'ai décrit les villages de Galilée que je n'ai jamais visités. Et il fallait un travail énorme avec des amis qui m'ont filmé des choses, qui ont fait des photos. Et j'ai dessiné les villages pour que je puisse connaître comment les personnages peuvent marcher dans les ruelles, etc. Et pour moi, c'était une façon de connaître la Palestine. Et si les lecteurs voient dans ça une initiation vers la Palestine, je pense que c'est une grande chose. Par ailleurs, pour beaucoup de mes lecteurs palestiniens, un truc très intéressant, je raconte une petite histoire, une amie à moi venant de Nazareth, elle m'a raconté qu'elle a toujours demandé à son père de lui raconter la catastrophe de 48. Et le père a toujours refusé de parler de ça parce que c'est une blessure qui continue à couler. Et ce que cette femme a fait, elle a donné le livre à son père. Il a lu le livre. Et après qu'il a lu Bab Shams, La Porte du Soleil, il a commencé à raconter. Donc si ce livre peut ouvrir le récit, ça veut dire donner la vie à des gens, à raconter ce qui a passé, et à raconter leur mémoire, et à reconstruire leur mémoire, et avoir leur vie dans le miroir de cette réalité terrible, je pense que ce livre ouvre à des autres livres, dans le sens que un livre pareil n'a pas fini, pratiquement. Vous savez, j'ai eu l'idée que, dans l'édition arabe, on a discuté un peu l'idée de faire un livre sans couverture. Mais ce n'est pas pratique, etc. Mais j'ai toujours pensé que ce livre-là n'est pas une couverture parce que il y a toujours une possibilité d'ajouter des histoires. Et je pense que le lecteur, le vrai écrivain de ce livre sera le lecteur palestinien et israélien.
Elias Khoury, ce livre, La Porte du Soleil, qui dresse l'histoire des Palestiniens depuis la catastrophe de 1948, la Nakba, n'aurait pas pu être écrit par un Palestinien, par un écrivain palestinien ?
Ça, je ne sais pas, mais je pense que je connais bien la littérature palestinienne. Je pense que ça n'a pas été écrit concrètement comme ça, parce que la littérature palestinienne, ça veut dire le roman palestinien, de Ghassan Kanafani, de Jabra Ibrahim Jabra, de Emil Habibi, étaient très intéressés à créer l'image de Palestiniens avec les symboles et les métaphores. Et je pense que c'était en phase. Ça veut dire, pour arriver à dire le non dit, il fallait passer par là. Autrement, on peut penser autrement que les Palestiniens vivaient toujours, les réfugiés palestiniens vivaient toujours dans le provisoire. Et quand vous êtes dans le provisoire, vous n'êtes pas intéressé à écrire. Ça veut dire la mémoire orale est dominante parce que les Palestiniens n'ont jamais accepté l'idée qu'ils sont en exil. Et je pense que ce livre a été écrit, objectivement parlant, maintenant je ne parle pas, je parle comme un critique littéraire, parce que l'idée de l'exil vient, et je pense, d'ailleurs j'ai écrit ça dans la revue de l'étude palestinienne, même s'il y aura un État palestinien, ça sera pour la première fois peut-être dans l'histoire du monde un État d'exil, parce que la majorité de la population dans la Cisjordanie et à Gaza sont des réfugiés, sont des gens de 60% de la population sont des réfugiés, sont des gens dans l'exil. Donc je pense que la Porte du Soleil, c'est la première représentation de cette nouvelle conscience de l'exil.
Voilà, c'était Elias Koury au micro de Arnaud Dehaye. On pourrait simplement évoquer le dispositif narratif du livre, parce que lui, il évoque les mille et une nuits, et c'est quand même, comment dire, des mille et une nuits très très terrifiantes et pour le moins pas triomphales, parce que c'est l'histoire d'une agonie.
C'est l'histoire d'une agonie, en fait. Bon, le roman est une unité de lieu et de temps. On est dans un hôpital au chevet de quelqu'un dans le coma, dont on ne sait pas s'il va se réveiller ou pas.
Dont on sait qu'il va mourir. On nous dit ça très vite.
On le sait pas si rapidement que ça. On le sait à la fin, mais je voulais pas révéler la fin.
C'est qu'il est condamné, il est perdu, voilà. Et que le narrateur refuse la mort.
C'est ça, c'est ça.
Et essaye par tous les moyens quand même de le
sauver.
De le sauver, et de le sauver comment ? De le sauver par la parole.
Oui, en le faisant revivre.
C'est ça qui est extraordinaire, parce que c'est un homme condamné, qui aurait été simplement enterré tel quel, sans essayer de le ramener à la vie.
Oui, moi j'irais jusqu'à dire que c'est en quelque sorte le même homme. C'est-à-dire que l'homme qui écrit et qui parle à l'autre pour le réanimer, c'est au fond un vivant avec un mort dedans. Et pour moi, c'est ça la grande force de cet écrit, c'est que c'est une extraordinaire tentative de réanimation au sens à la fois réussi et
désespéré,
donc impossible. C'est-à-dire que la réussite est dans la tentative. Et que ce mort qui est à l'intérieur, puisque finalement, ça me fait penser à ce que disait Genet quand il parlait de la vie, il disait que c'était une succession de morts. Ben, moi, je crois qu'ici aussi, on a affaire à ça. C'est-à-dire que Elias Koury traite avec les morts qu'il a accumulés, soit dans sa mémoire, soit à travers la mémoire des autres. Et cet homme à qui il parle, c'est l'autre et c'est lui.
Mmh. Alors, ce qui est frappant, c'est qu'il ne fait pas un roman historique, mais qu'il convoque sans cesse l'histoire, et que donc, par exemple, il mélange des personnages fictifs et des personnages réels, je sais pas, des personnages de la résistance palestinienne, ou bien des écrivains, ou des poètes palestiniens, et que ça, ce sont des effets ordinaires de romans historiques, mais là, il fait un roman qui produit de l'histoire, plutôt, on pourrait dire, ou quelque chose comme ça.
Il produit de l'histoire au sens... Pardon, Edmond.
Allez-y, Edmond. Edmond El Malek.
Non, je pense que nous sommes confrontés ici à une œuvre qui demande à être jugée totalement en dehors des critères littéraires habituels, le classer soit dans le roman historique ou autre. À mon sens, c'est inopérant. Mmh. Inopérant. Alors, je pense que ça demanderait une très longue intervention, malheureusement on est toujours limité par le temps. Je pense que Elia Souri, je voudrais d'ailleurs parler un peu plus longuement de cette culture, d'où il vient et d'où il parle. C'est extrêmement important. C'est déterminant, cette culture, d'où il vient et d'où il parle. Mais avant d'évoquer cette culture, d'où il vient et d'où il parle, je crois que ce livre est un livre absolument remarquable, remarquable à tout point de vue, parce qu'il il dresse le panorama effrayant de la colonisation et de la destruction de la Palestine et du peuple palestinien. Il le fait sans jamais tomber dans le discours idéologique, et par là il est tout à fait près de l'autre tentative de jeûner un captif amoureux. Et dans tout ce qu'il dit, tout ce qu'il écrit, il y a chaque fois le dépassement d'une affirmation, c'est-à-dire que on va vers le tragique humain dans toute sa rigueur et dans toute sa nudité. Et alors, il y a des passages, et on aimerait aborder ce livre comme Walter Benjamin dit comment il faut faire la critique, c'est-à-dire le faire par des citations. Et les citations auraient été ce qu'il y a de plus. Laisser le texte parler par lui-même. Alors, il y a des passages absolument extraordinaires. Le passage sur Sabra Shatila, où nous voyons arriver des Occidentaux, des journalistes de France, qu'il ne s'agit pas d'ailleurs de soupçonner de quoi que ce soit, ce n'est pas le problème, mais qui sont, d'une manière évidente, déphasés par rapport à ça. Parce que ce n'est pas du tout l'intérêt de raconter une actualité heureuse. Il y a là un drame qu'ils n'arrivent pas à voir. Bon. Il y a des passages extraordinaires encore. Il pose le problème de la violence. Et il pose le problème de la violence d'une manière absolument extraordinaire, et même le problème de le fait de tuer, le fait de l'image de l'ennemi, comment il regarde l'ennemi. Alors là, il y a des interrogations d'une profondeur philosophique, si on peut dire, qui dépasse l'ordinaire de l'anecdote. Bon. C'est un livre des mères. La présence des mères était absolument extraordinaire. Et là aussi, rejoint Genet. L'amour des mères, c'est vraiment la substance même de la résistance palestinienne et du drame palestinien. Ce que je voudrais dire, c'est que d'abord, ce genre de littérature, eh bien, ça nous sort de la littérature ordinaire. Et je rejoins ici ce que on attribue à Genet, à Walter Benjamin, qui dit, n'est-ce pas, sa conviction que le combat littéraire est un combat décisif dont l'enjeu est le sauvetage de la perte de l'humanité. Mmh. Et exactement, c'est dans cette perspective que s'inscrit Genet. S'inscrit Khoury. Et je voudrais dire aussi que il y a une question importante, c'est le passage de la littérature, de la culture arabe, de la langue arabe, à la langue française. Et lui, lorsqu'il dit « ma » en a très bien parlé, et lui-même en a très bien parlé, parce que le fait, il y a un problème toujours en langue arabe entre la formulation classique, etc. Or, en ayant recours au dialogue et à l'arabe parlé, il est arrivé à la proximité de la sensibilité populaire et quotidienne. Mmh. Et ça, c'est extrêmement important. Et je crois que là, on doit, il l'a toujours dit d'ailleurs, comme cette citation attribuée à Humboldt est citée par Benjamin dans son dernier livre qui vient de paraître, Fragment. Humboldt dit que tout homme est placé pour la vie dans le cercle enchanté de la langue maternelle, et c'est la langue maternelle qui pense et voit à sa place. Et c'est exactement ici le cas d'Elia Souri, et pose le problème de la traduction, évidemment, et qui est d'ailleurs très bonne.
Oui, Arnaud, vous vouliez...
Oui, moi je voulais ajouter quelque chose à ce que vient de dire Edmond Elmalet, que je trouve tout à fait juste et qui m'a paru singulier, c'est qu'avant de commencer l'interview avec Elias Koury, il m'a dit « Je n'arriverai pas à parler comme un écrivain. Je ne sais pas comment parlent les écrivains sur cette sortie un petit peu de la littérature. » Par ailleurs, aussi, il faut souligner l'énorme travail documentaire qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il a collecté toutes ces histoires en visitant les camps. Et là, on est tout à fait en prise avec le réel aussi.
Oui, c'est ça la particularité de ce travail. En même temps, bon, Edmond Elmalet, il faut sortir ce livre des catégories ordinaires de la littérature, mais il a un matériau romanesque, comment dire, ce qu'on appelle en ordinaire le romanesque, c'est-à-dire par exemple une histoire d'amour extraordinaire, qui d'ailleurs est paradoxale, parce que c'est pas l'histoire d'un amour contrarié par la tradition, bien au contraire, c'est un mariage arrangé qui est contrarié par l'exil, et non pas par la tradition.
Oui, il y a une multitude, en fait, d'histoires d'amour dans ce livre.
C'est vrai.
Et c'est très vrai, ce qu'il disait lui-même tout à l'heure, c'est que c'est aussi un livre sur l'amour. C'est là qu'il y a quelque chose de très profond, c'est qu'il n'hésite pas une seconde à nous donner à voir à travers les échecs et les rêves et les grands désirs. Il n'hésite pas à nous laisser voir les petites misères de chacun derrière tout ça. Et donc, là, on est dans l'universel. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de défendre une cause. Mmh. On est en train d'entrer à l'intérieur des vies. Et c'est une grande victoire. Je crois que on ne peut pas davantage rendre hommage à un peuple qu'en le sortant des carcans, encore une fois, de ce que disait Edmond, du dogmatisme ou du militantisme.
C'est vrai que c'est tout sauf triomphant ou militant. Soit, par exemple, le type qui parle, le héros, est une espèce de demi-médecin qu'on va rétrograder au rang d'infirmier, etc. C'est tout sauf un discours triomphant.
Exactement. C'est pas un livre de héros. Et dans un sens, moi, je dirais que tout comme lui, Elias Koury, est un homme qui n'a pas peur d'avoir peur. Je crois que c'est fondamental si on veut entrer au fond de sa démarche. Il n'a pas peur d'avoir peur. Et je crois que c'est le grand courage. C'est-à-dire qu'il entre en tremblant. Et c'est un livre plein de larmes. Il y a des moments où je me disais tout de même, il exagère, on ne peut pas pleurer autant. Eh bien, il n'est pas larmoyant une seconde. Mm-hmm. Je crois que tout ça revient à cette attitude fondamentale qui est la sienne, qui est au fond une grande force physique aussi. Il y a chez lui une vitalité au double sens du terme. C'est-à-dire que ce qu'il fait est vital, c'est existentiel, et c'est animé par une force vitale physique qu'on peut appeler la vitalité. Donc elle le porte et elle lui permet, elle lui autorise ce qui, sous une autre plume, aurait été littéralement morbide, c'est-à-dire à s'entourer de cadavres et de morts. Ce livre est jonché de morts et il est vivant. Je crois que c'est ça sa grande victoire, Elias Koury, dans ce livre. Et c'est pour nous, je me permets de le dire aujourd'hui, je ne sors pas du sujet, mais je suis émue d'être ici pour parler d'Elias Koury et d'Edmond Amran El-Maleh. Parce que voilà deux hommes qui, pendant que les chars israéliens envahissent la Palestine tout entière, voilà deux hommes, l'un au Liban, l'autre au Maroc, avec des histoires absolument différentes, qui se rejoignent sur la même ligne de crête, exactement la même, celle où on tient un langage universel à partir d'une histoire traumatisante et qui ont qui vont peut-être être de ceux, ils ne sont pas les seuls heureusement, ils sont de ceux qui peuvent encore résister malgré un rapport de force totalement inégal, inégal n'est même pas le mot, un rapport de force inexistant. On a une armée qui envahit et piétine un territoire et on a des hommes seuls, sans soutien de leur régime, puisque les régimes arabes sont ce qu'ils sont, sans soutien, qui avancent seuls et qui font exister des paroles, des vies, des mémoires. Je trouve ça aujourd'hui émouvant de pouvoir parler d'eux. Je termine juste sur deux phrases prises dans leurs deux livres qui rejoignent, Pascal, le thème de votre émission. Elias Koury dit « L'histoire possède en fait des dizaines de versions et lorsqu'elle se fige en une seule, cela ne mène qu'à la mort. » Et Edmond Elmaleh, à la fin de Milan, un jour, dit « fragilité, précarité, tout mot avancé, tout discours ordonné, en forme, porte en lui sa honte, son indécence, sa prétention qu'aucun habillage habile de modestie précautionneuse ne dissimule, la certitude qu'il porte à sa naissance les signes de ruine inéluctable. » Je crois que là, ils se rejoignent tout à fait.
Parce que pour poursuivre ce que vous disiez, il dit, lui, Coury, voilà, c'est la première représentation, donc disons, elle est romanesque, elle aurait pu être autre chose que romanesque, c'est la première représentation de l'histoire de l'exode palestinien. Ce qui paraît une affirmation comme ça choquante, on se
elle
dit
est bon, juste, mais... elle est ouais. juste. Il y a eu certainement des récits faits à partir de la réalité palestinienne dans les camps. Il y a eu des récits, il y a eu surtout des recueils.
Donc, c'est un romancier qui fait œuvre d'historien en faisant œuvre de témoignage, puisqu'il dit qu'il a été chercher des photos, des vidéos, qu'il a regardé le paysage. Comment c'était possible, par exemple, de passer clandestinement cette frontière entre le Liban et la Galilée dans les années, qu'est-ce que c'est, 60, 70?
Oui, il a fait œuvre de recherche d'historien, et puis, comme font tous les écrivains, une fois qu'il a accumulé tout, il a mis de côté et il a écrit, parlé et entendu en même temps. Il a fait les trois choses en même temps.
Oui, Edmond Elmaleh, sur cette présence de l'histoire, au fond, vous disiez c'est hors catégorie littéraire, mais on rejoint cette question-là.
Je crois que que serait l'histoire? Ce serait donc donner des dates, de donner le récit d'événements, etc. Mmh. Alors,
par exemple, raconter Sabra et Chatila peut être faire œuvre d'historien.
Oui, mais alors voilà, l'équivoque est la suivante. C'est-à-dire que c'est même le problème des historiens. Si on s'attache... la chronologie de l'histoire, à la relation des événements, on laisse échapper la substance de la réalité historique. Or, passant à un travail littéraire, et c'est là où la littérature peut aller bien plus loin que n'importe quel récit historique, la création esthétique et littéraire permet de se saisir de ce que l'histoire laisse échapper. C'est-à-dire qu'elle va vers le drame humain, la tragédie humaine, que nous vivons aujourd'hui avec une intensité effroyable, et qui se trouve inscrite dans cette terre de la Palestine. Et c'est extraordinaire parce que le filet se resserre par la puissance de la création esthétique et littéraire. On arrive par une convergence ici à focaliser sur cette image. C'est ça d'extraordinaire. Je pensais à quelque chose d'extraordinaire qui Adorno disait dans Minima Moralia que l'autre n'a pas de visage quand il s'agit d'un. Et le drame, c'est précisément quand on parle des Palestiniens ou qu'on parle des kamikazes et autres, on ne leur donne pas un visage. C'est l'autre, anonyme, loin.
Donc la littérature incarne.
Alors, justement, tout l'effort, c'est d'arriver par la magie de cet amour, par la présence des femmes, par la présence quotidienne du détail de la vie qui pourrait peut-être relever de l'anecdote, mais qui ne relève pas, arriver donc à donner un visage humain.
Je crois que c'est essentiel, ce point-là.
Donner un visage humain.
Essentiel. Et le fait que le livre d'Elias Roury soit traduit en hébreu est aussi essentiel. Et je pense que plus on traduira aussi d'ouvrages de l'hébreu vers l'arabe, et que plus on permettra à ces visages de se connaître, et comme dit Edmond, non pas d'être des anonymes. On y va lentement. Et c'est vrai que quand les chars s'y mettent, le visage de l'autre l'autre disparaît, mais il se fait quand même, je dirais, en dehors, en dessous, à travers des ponts comme cela qui font que petit à petit le visage de l'autre peut se mettre à exister, israélien ou palestinien.
Je voulais citer la fin du livre qui est très belle. Donc le narrateur dit « Je suis sorti de chez moi pieds nus et j'ai couru vers ta tombe. Je suis debout ici sous le couvert de la nuit, inondé par la pluie de mars. Et je te le dis, non mon ami, les histoires ne se terminent pas ainsi, non. Je suis debout, les cordes de pluie se déploient du ciel jusqu'à la terre, mes pieds s'enfoncent dans la boue, je tends la main, je m'accroche aux cordes de la pluie et je marche, je marche, je marche. » Il n'y a pas de point. Et donc cette répétition du verbe marcher, c'est comme ça une sorte de métaphore de l'exil palestinien, mais comme
de
ça.
De l'exil très... et de cette écriture qu'il a choisie, qui est de faire qu'il n'y ait ni commencement ni fin, et de mettre d'ailleurs en déroute constamment le lecteur en lui offrant la fin avant le début. Au fond, c'est un livre contre la curiosité.
Voilà, La Porte du Soleil de Elias Khoury est publié aux éditions Actes Sud. Il y a beaucoup de points communs entre votre livre, Edmond Amran El Maleh, Milan, un jour, et celui d'Elias Khoury. Par exemple, la volonté d'évoquer la guerre du Liban et les massacres de Sabra et Shatila.
Oui.
Le projet n'est pas du tout le même, mais au fond, alors qu'il a été publié, enfin, c'est une reprise donc, de ce livre, hein, qui a été publié pour la première fois en 86, vous disiez ?
86, c'était au lendemain, à peu près, donc... contemporain de la guerre, de l'invasion du Liban par les Israéliens.
Juste après, oui.
Oui. Ouais. Bien, je crois que ça ne m'appartient pas de défendre mon livre,
de dire ça, les liens entre, par exemple, celui de Khoury et le vôtre, étrange au fond, qui se tissent comme ça.
Étrange, non, parce que, comme Khoury, je me suis refusé à faire un livre idéologique. Mm-hmm. Tout à fait consciemment tenté une œuvre littéraire en pensant que le défi face à cette atrocité d'invasion de Liban et tout... toute cette tragédie qui se joue maintenant, passer à l'éternel discours politique, même s'il est fortement argumenté ou autre, c'est rester dans le piège, dans le cycle infernal de l'idéologie qui se ferme sur elle-même. Donc la seule percée possible, c'était... maîtriser la violence de sa souffrance, parce qu'il y a une souffrance, et tenter d'aborder cette tragédie par le biais de la création littéraire.
Mais peut-être que ce serait bien que vous nous rappeliez un tout petit peu votre itinéraire à vous, parce que vous êtes né au Maroc.
Je suis né au Maroc, je suis marocain, je suis juif marocain, je n'ai jamais changé. Et c'est en tant que juif marocain et marocain juif que engagé n'est pas le mot, mais que je me suis... d'abord que j'ai ressenti profondément, dans toute son étendue, cette tragédie, qui se joue sur deux registres.
Oui.
Il y a d'abord le fait d'avoir chassé les Palestiniens de leur terre et de leur faire subir ce qu'ils ont subi aujourd'hui. Et en même temps, ce qui est ce que les gens n'ont pas compris à ce jour, c'est que cette entreprise de chasser les Palestiniens de leur terre, entreprise par, disons le mot, par le sionisme, il n'y a pas d'autre il ne faut pas tourner autour du pot, et articulé avec la destruction des communautés arabes, des communautés juives dans le monde arabe.
Alors, c'est le sens de votre titre, en fait, hein.
Oui.
Mille ans, un jour.
C'est ça.
C'est-à-dire, ces communautés juives du monde arabe étaient là depuis 1000 ans, et vous dites presque en un jour.
Bon. Et pratiquement, c'était vrai. Pour,
elles ont disparu. Elles sont parties pour Israël.
Les juifs berbères du Maroc, on les a embarqués dans les 48 heures, on les a, etc. Bon.
Donc, tout votre livre est une interrogation. Pourquoi ? Pourquoi sont-ils partis ?
Peut-être pas une interrogation, mais un constat. Un constat avec cette atténuation qu'aujourd'hui, encore, il y a des juifs au Maroc.
Dont toi, d'ailleurs.
Dont moi, jouissant de leur qualité de citoyen marocain, avec tous les droits et toutes les garanties, etc. Non, ce n'est pas le pourquoi, mais c'est le constat. Mm-hmm. De voir que juifs et musulmans... sans donc du tout céder à un idéalisme qui n'a pas lieu d'être, ont partagé un destin profondément, dont donné naissance à une civilisation et à une culture, ensemble. Les deux éléments avec des particularités de son propre, tout cela s'est trouvé détruit, heureusement pas complètement chez nous, mais c'est effrayant de voir en Irak, en Yémen... en Égypte, etc., toutes ces communautés juives qui étaient porteurs d'une richesse civilisationnelle et culturelle extraordinaire, se sont trouvées détruites, arrachées à leur pays. Mm-hmm. Et alors, le dommage est non seulement pour les juifs, mais pour les pays qui ont perdu une de leurs dimensions essentielles, qui était donc la présence d'un judaïsme riche et fécond à côté donc de l'islam. Donc, si vous voulez, c'est donc chaque fois que je parle en tant que Marocain, juif marocain, et je n'ai jamais, autant que je m'efforce de l'être, d'avoir un regard en extériorité. Je ne suis pas un juif qui parle de la situation des juifs, je suis un Marocain qui parle d'une situation propre à des juifs marocains. C'est une nuance à laquelle je tiens. Évidemment, je me rejoins totalement avec Elia Souri, qui est un ami en plus. J'ai trouvé dans son livre une confirmation, un encouragement dans ce que j'ai fait. Donc, je n'étais pas isolé à aller dans cette voie d'aborder cette tragédie. Je répète le mot tragédie parce qu'il n'y a pas d'autre mot. De l'aborder sans tomber dans l'engagement politique.
Oui, il faut dire que c'est assez troublant qu'on soit là ensemble, et c'est formidable pour parler de ces deux livres au fond en même temps, parce que les parentés sont énormes. Au fond, il y a une date derrière tout ça, qui est 48, et c'est pour Edmond Le Malher ce moment... je dirais, où une communauté, une part vivante, comme il le dit, de la culture du pays, va partir et s'absenter d'un coup. Et donc le constat de cette absence, qu'il ne cesse de faire depuis lors, tout en étant lui présent et de l'intérieur, se fait au moment où Elias Rougui, lui, avec des réfugiés partis, soit en 48, soit plus tard en 67, doit... aussi partir à la recherche d'un pays qu'il ne connaît pas, puisque tout comme Malher ou son héros Nessim avance à tâtons en aveugle dans les rues de Beyrouth qu'il ne connaît pas,
mm-hmm. et qu'il superpose à Essaouira.
Il dit dans ses yeux éteints, il avait créé une ville superposée à l'autre, à celle-ci ensevelie dans le rêve en linceul. Et on voit dans la recherche de Nessim, de cette ville qu'il a finalement qu'il n'a jamais vue. on retrouve Elias Khoury dans les villages de Galilée où il n'a jamais été. Et au fond, c'est là qu'ils font sauter ces barrières artificielles qui voudraient que la mémoire ne soit que ce que l'on a vécu soi-même. Il y a là, dans toute l'œuvre d'Edmond Al-Maleh, il y a une mémoire qui s'enrichit constamment comme un fleuve. Elle s'enrichit constamment de la mémoire des autres, mais encore une fois, ce n'est pas sur le mode de la reconstitution, jamais. C'est toujours dans le vécu, c'est-à-dire que rien de ces vies convoquées au fur et à mesure de cette œuvre n'est livresque, jamais. Mm-hmm. Et au fond, ils échappent tous les deux, probablement, de ce point de vue-là, à une littérature académique classique. Et je dirais même que c'est difficile. Bien sûr qu'ils s'inscrivent ils s'inscrivent tous deux dans une histoire littéraire qui est sans doute différente. Edmond est beaucoup plus, a une culture occidentale.
Français. Il est beaucoup plus français,
beaucoup
non?
Plus français.
Il a des références.
Et pas seulement parce que c'est un homme de plusieurs langues. Oui. Donc c'est aussi beaucoup l'espagnol qui a toujours parlé. Edmond était trempé dans les langues. Et il a, un pays qui est bordé par deux mers, l'océan et la Méditerranée. Il a plus de temps. Il a tout perdu d'un coup.
De tradition, vous voulez dire ?
Il a le temps, je dirais, vous savez, en arabe, il y a deux mots pour le temps. Il y a le mot « waqt », qui est le temps qui passe, là, celui-là, celui qu'on utiliserait en français pour tous les temps. Et il y en a un autre qui est le « zaman », qui est le temps absolu, qui est la durée, qui est ce temps au-dessus du temps. Et je dirais que dans l'œuvre d'Edmond, il y a du temps. Mmh. Il a le temps, même si tout est perdu en un sens. Le temps est là. Dans l'œuvre de Khoury, il n'y a pas une minute à perdre. Et le temps au Liban est cassé. Il n'y a plus de temps. C'est un pays où tout a été cassé. Le Maroc, c'est un pays qui a la durée quand même pour lui.
Est-ce que ce serait ça le cimetière juif, justement, de votre livre, qui est comme le signe de ce... De ce temps, de cette durée.
Vous parlez du premier livre.
Mais là aussi, il est beaucoup question du cimetière juif dans ce livre.
Oui, c'est...
De Issaouira.
Oui. Je pense que... Non, le sens du cimetière juif est le suivant. C'est-à-dire que...
Plus personne ne peut lire les noms sur les tombes.
Oui, le sens est ici très profond parce que c'est d'abord le fait que les morts ne sont pas partis. Bon, et c'est d'autant plus fort que certains sionistes ont inventé d'aller déterrer des morts pour les amener ailleurs. Donc, ils ont pris le symbole, ils l'ont pris un peu, on peut dire, en contrepoint, à l'envers. Alors, le cimetière, dans notre culture, comme dans la culture de l'islam, c'est un lieu de vie. Les gens vont, viennent, se promènent, etc. Donc, dans le cimetière, même le mot par lequel on le désigne, par exemple en hébreu, c'est pas un lieu de mort au sens où on le comprend dans en langue française ou autre, mais c'est un lieu où la vie et la mort sont, si l'on veut, en dialogue. Et c'est pour ça que quand on va chercher un des signes forts de la présence juive, il y a cette méditation, si on peut dire, qui est sur les tombes juives. Alors, c'était pareil aussi pour mon premier livre.
Je vous interromps là-dessus, parce que vous avez terminé tout à l'heure en disant je n'aime pas ce mot d'engagement. Oui. Est-ce que ça n'est pas lié à une référence quasi obligée en France quand on dit le roman engagé? Donc c'est Sartre, donc c'est lié au naturalisme, au réalisme le plus plat, ça, etc. Ça. Et que vous, au fond, vous êtes battu pour introduire une forme compliquée, non linéaire. Moi, ce que j'aime beaucoup dans votre style en particulier, c'est les énumérations. Vous avez des phrases de 2, 3, 4 pages magnifiques. Mais est-ce que vous ne refusez pas ce terme d'engagement à cause de cette espèce de poids sartrien un peu encombrant dont on, finalement, on pourrait se débarrasser?
Il y a derrière.
Si je puis dire.
Oui. Non, étant donné mon passé de militant, dont on ne fait aucun mystère, je me suis libéré de la langue de bois et en même temps, Sartre et toute cette littérature d'engagement dont on a eu tellement d'exemples en France, je trouve que ça a été un échec sur le plan
littéraire.
Littéraire.
Ouais, je serais plus nuancé que vous là-dessus, mais bon.
Ouais, je pense que, bon, pour moi, c'est très clair. Je voudrais ajouter une chose,
oui,
d'ailleurs,
allez-y.
À ce propos. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Chez moi aussi, il y a une présence de la langue arabe et de la langue populaire. Et par conséquent, plus on est loin de ce qui est conceptuel, de ce qui est abstrait, qu'on va vers le concret, plus on se rapproche de cette langue parlée qui est là sous la langue française.
Mmh. Donc et pour vous, c'est le judéo-arabe ?
C'est le judéo-arabe.
C'est l'espagnol ?
C'est le judéo-arabe, c'est notre langue, c'est de l'arabe, l'arabe populaire avec... Les Juifs au Maroc n'ont parlé que l'arabe pendant longtemps, avant l'introduction du français, etc. Mmh. Et un arabe avec des particularités qui les distinguent de l'autre partie de la population. Donc je crois que, évidemment, comme je l'ai dit, on finit par inventer une langue qui est un peu ce que j'avais dit dans la préface de Parcours immobile, un peu un monstre. Comme Derrida a fabriqué une langue qu'il qualifie de monstre lui aussi.
Oui, Dominique Hédé.
Je pensais à ce qu'avait dit tout à l'heure Elias Roury à propos de la description. Il disait qu'au fond, il n'aimait pas la description et vous lui faisiez très justement remarquer que dans son livre, les personnages n'étaient pas décrits. Moi, je crois que... une des choses, parmi les choses nombreuses que j'aime beaucoup dans l'œuvre d'Edmond, c'est précisément ce sens à l'intérieur du grand récit et du grand fleuve qu'est son œuvre, c'est ce sens de la description et du détail qui fait vivre ces personnages exactement comme on le retrouve dans le roman de Conrad ou avant de Balzac, etc.
Mais ce n'est pas des descriptions balzaciennes non plus, hein.
Non, mais écoutez ça, par exemple.
Avec des relatifs, des adjectifs.
Non, au niveau de la syntaxe, oui. Non. Mais au niveau d'une certaine perception visuelle, il y a une visualité, on
s'assure. Visualisation.
Visualisation, pardon. Enfin, je reviens aux yeux, disons. Écoutez ça, par exemple. Ruben, ami de Nessim, parent même, puisque la parenté s'étendait sans limite, ami intime et compagnon de classe, d'études, était un mix étonnant. Un visage long, anguleux, des cheveux bouclés presque crépus, un teint basané, un long nez toujours encombré qu'il mouchait bruyamment dans un énorme mouchoir froissé, aux plis et replis comme un visage de vieillard, il pinçait, il attrapait distraitement ses deux narines avec un pan de cet étendard fripé, trompetait là-dedans à faire trembler les murs, ses lunettes d'écaille à cheval sur l'arête nasale désarçonnée par ce maelstrom s'embué de vapeur, achevait d'épaissir le brouillard de la distraction. Moi, je trouve ces descriptions formidables. Toute l'œuvre de Mahler est semée de ces descriptions. Et je peux dire là, après tout, on a le droit d'apporter des questions. Ce n'est pas une réserve, c'est une question. Je pense que le roman arabe va, je l'espère, s'enrichir de ce point de vue-là, de quelque chose qui n'est pas encore dans sa tradition, parce que le roman arabe n'est pas adossé à la même mémoire romanesque que le roman français, qui est précisément cet usage de la métaphore qui ne serait pas simplement de dire ressemble à une gazelle ou à des yeux d'amande, hein, qui sont ces métaphores usées de la littérature arabe que Elias Roury refuse, et il a raison de les refuser, mais qui peuvent peut-être ouvrir la porte à d'autres imaginations et d'autres inventivités, et qui sont très présentes dans l'œuvre de Mahler.
Vos exergues, d'ailleurs, c'est les Amalima. Ça m'a
oui.
frappé. C'est quelqu'un
oui.
d'important pour vous, les Amalima, ah, justement, bien quelqu'un bien de la profusion,
oui.
de l'énumération, de la
c'est
description, de l'adjectif, quoi.
C'est la grande référence.
Oui, c'est vrai.
Les Amalima, c'est la grande référence. Et puis, d'une manière générale, le roman sud-américain, pour des raisons évidentes, et c'est que hors de l'abstraction, de la construction conceptuelle, de l'écriture qui va appuyer sur un projet, sur un cheminement discursif, etc., il y a les Samalima, et il y a surtout cette chose extraordinaire qu'on trouve aussi chez les poètes espagnols comme Valente, ça. Il y a ce qu'on appelle finalement, et qui existe aussi chez Walter Benjamin, qui fait le fondement, c'est la pensée poétique. Et c'est ça qui est extraordinaire.
Là, vous avez une minute pour développer. Il en reste 45 secondes. Non, mais allez-y, explique-moi un tout petit peu.
Ben, je veux dire que c'est Hannah Arendt qui a parlé de Walter Benjamin et qui a dit que sa pensée était une pensée poétique. On pense par poésie.
D'accord.
Et, c'est là le maître mot, si on veut, ce vers quoi, moi, avec mes moyens, qui sont ce qu'ils sont, je m'efforce d'aller.
Merci. On a parlé aujourd'hui de La Porte du Soleil de Elias Khoury, traduit de l'arabe par Rania Samara et qui est publié aux éditions Actes Sud dans la collection Sinbad. On a parlé du livre de Edmond Amran El-Maleh, Milan, un jour, publié aux éditions André Dimanche. Voilà, ces jeudis ont été réalisés par Anne Franchini, à la prise de son Alexandre Dang, à la documentation Isabelle Rebre et à la coordination Geneviève Méric.
C'était Les Jeudis littéraires par Pascal Casanova, une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 4 avril 2002. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits.
الصلاة أصلي عيوننا إليك ترحل كل يوم ترحل كل يوم تدور في أروقة المعابد تعانق الكنائس القديمة ترحلوا